Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, des élections ou des nominations à la tête de l'État sont l'occasion de nous interroger sur le pouvoir et l'autorité. Qu'est-ce qui autorise un être humain à exercer un pouvoir sur son semblable? Comment l'exerce-t-il de manière juste? Cette question des fondements et de l'exercice de l'autorité occupe les sociologues, les juristes, les philosophes. Mais elle nous concerne tous. Que nous nous comptions parmi les sages et les savants ou parmi les tout-petits, dans l'ordre du savoir ou du pouvoir. Car si tous nous n'avons pas reçu la charge de commander, à tous nous échoit au moins la responsabilité de servir. Réfléchir à la nature de l'autorité et aux modalités de son exercice s'impose donc à tous, quelle que soit notre condition, pour mener une vie bonne. La parole de Dieu, dont c'est le but de communiquer à tous la vie bonne, la vraie vie, nous offre sa lumière. Et comme à son habitude, plutôt que de nous inculquer des principes abstraits, elle nous raconte une histoire. L'histoire d'un peuple. Le peuple d'Israël, rassemblé pour porter témoignage à la vérité du Dieu vivant au milieu des autres nations. Comme tous les autres peuples, le peuple d'Israël, le peuple du Seigneur Dieu, dut s'interroger sur les moyens de réaliser et de protéger son unité au service de la vocation qui était la sienne. Le mieux n'était-il pas pour Israël de n'avoir d'autre roi que Dieu lui-même? Tel fut longtemps le cas dans l'histoire que nous rapporte la Bible, jusqu'au prophète Samuel, qui s'entendit cependant appelé par le ciel à désigner, malgré lui, un roi pour Israël, et à loindre de l'onction sainte, à en faire de la sorte un Messie, un Christ, investi de la force de l'Esprit divin pour assurer au peuple élu la justice et la paix. Après qu'Israël eut perdu son indépendance politique au temps de l'exil, la royauté ne fut plus un régime pour le temps présent, mais l'objet d'un désir ardent. Le Messie, le Christ de Dieu, ne régnait plus. Il était plus exact de dire qu'il n'avait jamais vraiment régné, qu'il ne régnait pas encore, qu'il était attendu, espéré, pour l'heure connue de Dieu seul, où son royaume serait instauré. Et les prophètes dressaient de ce Christ à venir un portrait idéal qui était aussi celui de tout le peuple futur et de chacun de ses membres sous l'empire d'un tel chef. Le peuple tout entier deviendrait peuple messianique, un peuple de Dieu, dit même un psaume cité par Jésus, le sel de la terre et la lumière du monde. Telle était l'espérance que chantait le prophète Zacharie après le retour d'exil, dans la première lecture que nous venons d'entendre. Entre les règnes de Cyrus, le Perse, et d'Alexandre, le Grec, Zacharie donne à voir de loin ce que sera le bon roi pour Israël, un roi selon le cœur du Seigneur Dieu. Il le veut certes juste et miséricordieux et victorieux, c'est-à-dire sauveur, comme l'explique la traduction grecque du texte. Mais pour cela, pour qu'il fasse triompher la justice qu'il doit instaurer, pour qu'il conduise à la victoire qu'il doit remporter, Zacharie le célèbre, ce Christ, pauvre et petit. Voilà sa marque propre dans le concert des nations et le défilé de leurs dirigeants. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi venir vers toi, juste et victorieux. Il est pauvre, et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Quel programme déconcertant, aux yeux du monde, que celui de régner par la pauvreté et la petitesse. La pauvreté, comme l'a dit Madeleine Delbrel, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu peut nous obtenir à travers elle. La pauvreté, la petitesse du Christ selon le cœur de Dieu, la pauvreté du Messie espérée par Israël est une pauvreté habitée. Elle est la demeure que la foi édifie pour que le Seigneur Dieu puisse s'y faire entendre, pour qu'il puisse s'y rendre présent et agissant, présent et agissant à sa manière, qui est bienveillante, non violente, patiente et bienfaisante. La petitesse et la pauvreté du Christ attendue par Israël révèlent au monde le nom d'un Dieu qui n'est Seigneur que comme Père. Elles font advenir un règne qui n'est pouvoir que comme partage de vie. C'est la mort et la résurrection de Jésus, le mystère de sa Pâque, qui accomplirent l'espérance annoncée par les prophètes. Jésus s'est abaissé. Il a poussé la douceur et l'humilité jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi il fut exalté. Comme le dit l'apôtre Paul dans les premières lignes de l'Épître aux Romains, il est établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Cette puissance, désormais, elle s'exerce sur les croyants, dans le don de l'Esprit, principe d'une vie nouvelle pour ceux qui le reçoivent. L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, dit Paul aux chrétiens. Nous ne sommes pas étonnés, frères et sœurs, pauvres pécheurs que nous sommes, de nous entendre dire qu'il nous faut être humbles. Il est moins facile de comprendre comment du Christ Jésus on a raison de dire ce qui était déjà affirmé de Moïse dans le livre des Nombres. Il était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Il nous est encore plus difficile de mesurer à partir de cette humilité du Christ celle-même abyssale de notre Dieu, dont le propre, comme l'affirmait Thérèse de Lisieux, parce qu'il est amour, est de s'abaisser. Quand nous prions Jésus, le prions-nous comme un Christ humble et doux? Quand nous prions le Seigneur Dieu, le prions-nous comme un Dieu humble et doux? Quand nous annonçons le Christ, annonçons-nous un Christ humble et doux? Quand nous annonçons Dieu, annonçons-nous un Dieu humble et doux? Voici donc la lumière offerte par la parole de Dieu, à qui s'interroge sur ce qui légitime et régule l'autorité que les hommes exercent sur d'autres hommes. Cette lumière est l'expérience d'un service humble et doux. Le modèle en est fourni par Dieu lui-même en son Christ. Son Christ qui ne veut régner que par la croix. Une fois encore, il nous presse humblement, doucement, d'accepter son invitation à le laisser nous nourrir de son corps et de son sang, à le laisser nous transformer par les dispositions qui sont en son cœur pour tisser aujourd'hui les liens de la fraternité.